France Inter.
Voici le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Des icebergs longs de plusieurs centaines de mètres sur la route des skippers du Vendée Globe. Une première sur l'épreuve depuis près de 15 ans. L'image du jour dans un instant. À suivre encore, vigilance en montagne dans les Pyrénées. Deux randonneurs morts hier à quelques heures d'intervalle sur un sommet a priori sans danger majeur. Nous verrons ce qui s'est passé. Les États-Unis, la Nouvelle-Orléans après l'attaque terroriste. Au moins 15 morts. Nous en savons plus sur le parcours du tueur au pick-up influencé par l'État islamique. Nous reviendrons également sur le bilan sécurité du 31 décembre en France. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Trop lourd, dit Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui parle du produit d'un ensauvagement.
Oui, un nombre d'incendies de véhicules de particuliers en forte hausse par rapport à ces deux dernières années, mais on retrouve la moyenne des bilans de la fin des années 2000, début 2010.
A tout de suite pour vos précisions. Nous serons au Royaume-Uni également. Une femme retrouvée là-bas 52 ans après sa disparition. Tout cela grâce aux réseaux sociaux. Nous irons aussi sur l'île de Ré. Le tarif du pont en baisse depuis hier et cet habitant de La Rochelle compte bien en profiter.
Ça permettra de faire plus de séjours et de voyages sur l'île de Ré en week-end ou autre. C'est juste changer un petit peu d'air de La Rochelle et puis profiter des grandes plages et voilà, et se faire un petit restaurant ou autre.
De 8 à 4 euros, mais uniquement hors saison. À partir de 13h30, nous ouvrons, et ça va bien avec l'île de Ré, le dictionnaire amoureux du vélo avec son auteur, l'ami Eric Fotorino. Il y raconte une passion qu'il a saisie dès l'enfance et ne l'a plus quittée. Vélo loisir, vélo sportif, vélo du quotidien. Venez nous en parler, vous aussi. 01 45 24 7000. 13h50, c'est la France. Marie-Luce Ribaud du journal Sud-Ouest rend hommage à la cuisinière la plus connue des Français, Maïté. Disparue il y a 10 jours, elles sont originaires du même village des Landes. Ce sera donc Maïté avant la télé. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson, le comédien Arié Elmaleh, George Michael et Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
C'est l'un des nombreux dangers qui guettent les marins du Vendée Globe. Les icebergs, énormes blocs de glace qui dérivent depuis l'Antarctique dans le sud de l'océan Pacifique. Des satellites les surveillent en permanence pour alerter les skippers en cas de péril. Et c'est le cas en ce moment. Pour la première fois depuis 2008, des navigateurs ont croisé leur route ces dernières heures. Depuis, c'est grande peur sur la flotte, comme nous le raconte notre grand témoin sur ce Vendée Globe, la navigatrice Violette d'Orange, dans son message du jour.
Hier soir, j'ai reçu un message de la direction de course me prévenant que des icebergs ont été détectés au nord de la zone des glaces, pile sur ma route. Alors aujourd'hui, c'était surveillance des glaçons. Je vous dis ça en rigolant, mais en vrai, tout à l'heure, je faisais pas la maline. Parce qu'il faut faire une surveillance au radar, mais surtout à vue, parce que le radar voit pas les petits fragments d'iceberg. Alors j'ai sorti le bonnet, le cache-cou que j'ai remonté jusque sous les yeux, les moufles, et j'ai passé 3 heures à surveiller dehors la moindre petite tache blanche sur l'eau. Au final, je suis passée sans encombre, mais à 20 000 de moi, il y avait 2 énormes icebergs. En fait, il y a 2 de mes concurrents qui sont passés à côté et ils les ont pris en photo et c'est impressionnant. C'est des icebergs de 200 à 300 mètres. Bref, c'était chaud. Ou très très froid aussi. Bon, je commence à avoir hâte de passer le Cap Horn. À bientôt.
Voilà le stress à bord du bateau Devenir de Violette d'Orange. Il fait beaucoup plus chaud sur la tête de course au large du Brésil, où Johan Richaume est revenu sur les talons de Charlie Dalin, toujours leader. Là, c'est la neige. Neige dure et glissante qui pousse les sauveteurs en montagne des Pyrénées à un appel à la prudence après ce double accident mortel hier dans les Comminges. Nous sommes au sud du département de la Haute-Garonne, sur un sommet, le Cagir, qui n'est pas réputé ni pour son altitude, 1900 mètres, ni pour sa dangerosité. Et pourtant, 2 randonneuses y ont trouvé la mort hier. Bonjour Luc Chemla.
Bonjour.
Est-ce qu'on sait l'expliquer?
Alors oui, ces 2 randonneuses de 2 groupes différents ont en fait glissé sur environ 300 mètres et sont décédées suite à leur chute. Alors si on rentre dans le détail, ces accidents ont eu lieu sur le même passage à flanc de montagne entre la cabane de l'Escalette et le sommet du Cagir. Les secouristes élus avec qui j'ai pu m'entretenir sont d'accord. Sur le papier, ce secteur situé près de la ligne de crête n'est pas particulièrement dangereux, notamment l'été. En revanche, l'hiver, il faut être très prudent à cause du manteau neigeux, explique Fabien Melazzini, maire de Boots, l'une des 2 communes concernées par les drames d'hier.
Il a neigé, il a eu une forte couche de neige. Ensuite, il a plu beaucoup là-dessus. Et ensuite, il a gelé. Ça fait une couche de glace, quoi, du béton.
Une neige dure, extrêmement glissante, ce qui peut provoquer des accidents. Alors, par précaution, les maires de Boots et Arguenos, autres communes du secteur, viennent de prendre des arrêtés pour interdire la randonnée sur plusieurs chemins d'accès au Cagir. Mais ces conditions météo ne concernent pas uniquement cette zone, d'où le message de prévention des secouristes, le major Sébastien Abadi de la CRS Pyrénées.
Des chaussures de montagne classiques ne suffisent plus. Il faut absolument être équipé de crampons à glace et de piolets. Faites attention, en ce moment, il y a des débuts d'itinéraires qui sont dépourvus de neige. Donc, on peut être tenté d'aller se promener. Il fait beau, c'est les vacances. Et au fur et à mesure que vous allez monter, vous allez rencontrer de la neige dure. Donc, n'hésitez pas à faire demi-tour avant qu'il ne soit trop tard.
Et si vous avez le moindre doute avant de partir, n'hésitez pas à appeler les secouristes, CRS ou encore PGHM.
Vigilance qui vaut, et pas seulement pour le massif des Pyrénées. Merci Luc Chem. Et puis on a reçu des nouvelles ce matin d'un des meilleurs skieurs français, c'est Cyprien Sarrazin, grièvement blessé à la tête après une chute à l'entraînement à Bormio en Italie vendredi dernier. Ça avait d'ailleurs déclenché une polémique sur la sécurité de la piste de descente. Eh bien, il va mieux. Bonjour Guillaume Batin.
Bonjour Jérôme.
Il a quitté le service de réanimation, il va être rapatrié en France.
Oui, il est réveillé et conscient, mais son état de santé est toujours très fragile. Cyprien Sarrazin est sorti du service de réanimation. Il est actuellement aux soins intensifs de l'hôpital de Bormio, 6 jours après une opération chirurgicale pour un hématome intracrânien. Même si l'IRM du cerveau réalisé mardi est encourageante, les chirurgiens italiens n'ont toujours pas donné leur feu vert à son rapatriement en France. Le skieur de la station du Dévoluy dans les Hautes-Alpes est attendu demain, a priori, au service de neurochirurgie du Médipôle de Lyon. Le docteur Stéphane Bull, le médecin de l'équipe de France de ski alpin, est extrêmement prudent pour la suite. Il n'est aujourd'hui pas question, dit-il, d'un retour sur les skis, encore moins à la compétition. L'année 2025 va être longue pour Sarrazin qui entre dans une période de récupération. Ensuite viendra la rééducation et l'évaluation des séquelles.
Merci Guillaume Batin pour ces nouvelles de Cyprien Sarrazin. Aux États-Unis, c'est un événement de football américain qui devait passionner le pays aujourd'hui. Un sommet du championnat universitaire baptisé Sugar Bowl. Mais il va se jouer dans un contexte extrêmement tendu puisqu'il se dispute à la Nouvelle-Orléans. Il a même été décalé ce match d'une journée après l'attentat terroriste à la voiture Bélier commis dans la nuit du réveillon dans l'un des quartiers les plus touristiques de cette ville de Louisiane. Le dernier bilan est de 15 morts et au moins une trentaine de blessés. Bonjour Nicolas Teillard.
Bonjour.
Le suspect de cette attaque a été tué par la police. Il se nomme Shamsuddin Jabbar et il se dit inspiré par l'État islamique. Que sait-on de son parcours ?
C'est un homme de 42 ans, né au Texas et vétéran de l'armée américaine. Voilà qui vient contredire le récit sans doute prématuré de Donald Trump qui s'est empressé après l'attaque de pointer du doigt l'immigration. Shamsuddin Jabbar, c'est son nom donc, était installé ces dernières années à Houston. Il exerçait dans l'immobilier après une carrière dans l'armée où il a servi entre 2007 et 2015 avec notamment un passage d'un an en Afghanistan. Des témoins cités par le New York Times décrivent un retour à la vie civile difficile, converti dans sa jeunesse à l'islam. La religion prenait visiblement de plus en plus de place dans sa vie. Son frère émet l'hypothèse d'une forme de radicalisation. La presse se penche sur ces deux divorces, sur ce déménagement l'an dernier dans un quartier où vit une importante communauté musulmane. Les enquêteurs décortiquent les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux où il évoque l'État islamique et son désir de tuer. Vidéo tournée quelques heures à peine avant l'attaque.
Et les enquêteurs sont convaincus que cet Américain a eu des complices.
Intrigué notamment par ces engins explosifs artisanaux retrouvés dans sa voiture, je ne pense pas que Jabbar soit le seul responsable, confie une agent du FBI, confirmant des perquisitions à la Nouvelle-Orléans, mais aussi à Houston, au Texas, où la police recherche de possibles affiliations avec des organisations terroristes.
Nicolas Teillard, restez avec nous parce que j'ai encore une question à vous poser, mais je voudrais d'abord qu'on s'arrête sur les liens revendiqués par le tueur avec l'organisation État islamique, la même organisation qui fut par exemple à l'origine en France des attentats du 13 novembre 2015. Mais depuis Daesh, son autre nom a été considérablement réduite en Syrie. Alors a-t-elle encore les moyens d'agir à l'étranger ou bien a-t-elle conservé de l'influence ? Réponse d'Abdelhassem El Difraoui, docteur en sciences politiques à Sciences Po Paris, spécialiste de la mouvance djihadiste internationale.
C'est une idéologie très bien enracinée. L'ultra-violence de l'État islamique reste un modèle. Et même si l'État islamique est défait largement en Irak, mais encore présent en Syrie, il y a des branches du IS comme la branche au Khorasan, donc un terme historique pour une partie de l'Afghanistan, qui sont très actifs et qui donnent encore l'exemple à travers leur propagande, avec des attentats spectaculaires qui n'ont pas forcément touché l'Occident. Mais surtout, cette idéologie de l'ultra-violence a fait des émules. Donc, des attaques pas chères qui font un maximum de dégâts. Ils ont encore une propagande, surtout dans les messageries cryptées, etc. Mais à toute façon, il y a tout un corpus de propagande qui est présent et qui est présent dans la mémoire des gens. On espère que ça s'arrête, mais il faut s'attendre à ces genres d'attaques encore pendant des années, voire des décennies.
Abdelhassim El Difraoui au téléphone de Christian Chesneau. Nicolas Théillard, un dernier mot. Quelques heures après cet attentat à la Nouvelle-Orléans, dans une autre ville américaine, à Las Vegas, un véhicule de marque Tesla a explosé devant un hôtel appartenant à Donald Trump. Le conducteur est mort. Est-ce qu'on sait s'il y a un lien entre les deux ?
L'arrière de la voiture contenait des bidons d'essence et de gros mortiers de feux d'artifice, mais rien n'indique une connexion pour le moment, en dehors d'une même plateforme de location utilisée pour ce véhicule comme pour le pick-up de la Nouvelle-Orléans. Reste la puissance symbolique, voire allégorique, de l'image d'une Tesla, firme appartenant à Elon Musk, en flamme devant l'écriteau Trump de la tour. Tout cela à 3 semaines seulement de l'investiture du président élu.
Merci Nicolas Théillard. Toujours à l'étranger ce matin, ce drame de la migration au large de la Tunisie. 27 corps de migrants ont été repêchés et 83 autres ont été secourus. On l'a appris ce matin, mais ce naufrage a eu lieu hier, donc au large de la Tunisie, des migrants qui tentaient de rejoindre l'Europe. Parlons maintenant d'un pays qui fait rarement la une de l'actualité, mais que de plus en plus de Français connaissent, puisque le tourisme y a explosé ces dernières années. Surnommé le joyau des Balkans, c'est le Monténégro, pays qui entame aujourd'hui un deuil national de 3 jours. Après une fusillade hier, un homme ivre a tué 12 personnes, dont 2 enfants, dans une ville du sud du pays. Bonjour Nathanaël Charbonnier.
Bonjour.
Ce qui pose aussi la question des armes en circulation dans ce pays. Elles sont très nombreuses.
Oui, alors la police a indiqué qu'Alexandar Martinovitch, c'est le nom du tueur présumé, avait déjà été arrêté par le passé pour détention illégale d'armes, car c'est l'un des problèmes de ce Monténégro, un pays grand comme l'Île-de-France, où l'on compte pas moins de 245 000 armes à feu en circulation pour seulement 630 000 habitants, soit une arme pour 2 ou 3 personnes, une spécificité due aux vestiges de la guerre des Balkans. Mais ce surarmement local n'explique pas tout. À cela s'ajoute le crime organisé qui gangrène le pays, car c'est la vraie plaie du Monténégro qui doit batailler avec les mafias en tout genre, dont certaines russes qui descendent jusque-là. Le Monténégro, un repère de clans mafieux où les règlements de compte sont monnaie courante. En juin dernier, par exemple, 2 personnes sont mortes dans une explosion attribuée à un groupe criminel. Il faut dire que parmi les victimes se trouvaient des membres d'un gang connu des autorités, tout comme en septembre dernier, où un autre membre d'un clan mafieux a été tué par un sniper alors qu'il était assis dans son jardin.
Merci Nathanaël Charbonnier. Le pétrolier russe Eagle S a-t-il saboté un câble sous-marin en mer Baltique? Les Finlandais en sont convaincus, ils l'ont arraisonné il y a quelques jours et ils vont aujourd'hui débuter des inspections à bord. Ils soupçonnent ce navire d'appartenir à ce qu'on appelle la flotte fantôme russe. Et on en vient à cette histoire à peine croyable. Je vous en parlais en titre, ça se passe au Royaume-Uni. 1972, il y a 52 ans, Mick Jagger n'a pas encore 30 ans, pour vous donner une petite idée. Quand disparaît une lycéenne de 16 ans à Coventry, dans le centre du pays. Elle s'appelle Sheila Fox. Et depuis, malgré les démarches de ses proches, aucune nouvelle. Personne ne sait si elle a été enlevée, si elle a fugué. Eh bien, la police vient de la retrouver, tout cela grâce à une photo partagée sur les réseaux sociaux. Récit à Londres de notre correspondante sur place, Sarah Menei.
L'affaire remonte au printemps 1972, lorsque Sheila Fox, jeune lycéenne de 16 ans, disparaît de la ville de Coventry, au centre de l'Angleterre, à quelques kilomètres de Birmingham. Ses proches, sans nouvelles depuis 5 décennies, pensent qu'elle a fugué avec un homme plus âgé qu'elle fréquentait à l'époque. Ou pire, après des années sans nouvelles, il lui imagine un destin funèbre. Jusqu'à cet incroyable rebondissement. Fin décembre, 52 ans après sa disparition, la police, qui n'a pas encore classé l'affaire, lance un énième appel à témoins en publiant sur les réseaux sociaux une photo de Sheila datant de l'époque de sa disparition. la police est contactée et les informations transmises vont l'aider à résoudre l'une des plus longues enquêtes de son histoire. Sheila Fox est une retraitée saine et sauve qui vivrait aujourd'hui dans une autre partie du pays. Londres, Sarah Menaï, France Inter.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Darmanin, Retailleau, deux flics, amis, point d'interrogation. C'était la semaine dernière la question que se posait le quotidien Libération qui se demandait jusqu'à quel point les deux ministres de la Justice et de l'Intérieur n'allaient pas se faire concurrence. Et bien visiblement, ils sont décidés à occuper le terrain, y compris les 1er et 2 janvier. Nous parlerons dans un instant du ministre de l'Intérieur et de son bilan des dégradations du 31 décembre. Avant cela, allons à Marseille où le garde des Sceaux et ex-ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est en déplacement aujourd'hui, après avoir annoncé son intention d'isoler les 100 plus grands narcotrafiquants en prison. Et bien le voilà sur le terrain. La prison marseillaise des Baumettes cet après-midi et ce matin le palais de justice de Marseille. Bonjour Mathilde Vinceneux.
Bonjour Jérôme.
Correspondante d'Inter à Marseille. Mathilde, le ministre sort à l'instant d'une longue réunion avec les avocats et les magistrats marseillais.
Oui, avocats, magistrats, services de greffe, personnel de l'administration pénitentiaire. Une réunion de travail, dit Gérald Darmanin, qui avait promis dès sa prise de fonction de faire de la lutte contre le trafic de drogue une priorité absolue. Gérald Darmanin, qui est toujours en train de s'exprimer devant les caméras et les micros des journalistes et qui insiste, il veut mettre les moyens contre le blanchiment, attaquer les délinquants aux porte-monnaie, saisir les voitures, les biens immobiliers. Le ministre est revenu aussi sur sa proposition déjà annoncée dans la presse d'isoler plus strictement, vous en parliez Jérôme, les 100 plus grands narcotrafiquants détenus pour les empêcher de continuer à gérer leur trafic en cellules. Il faudra mettre en place des cellules témoins, dit-il, comme des appartements témoins avec des brouilleurs et un isolement plus ferme, comme on le fait déjà avec les terroristes, martèle Gérald Darmanin, qui souhaite aussi alourdir les peines contre ceux qui menacent les agents. Le garde des Sceaux va d'ailleurs se rendre à la prison des Baumettes cet après-midi, où la directrice a été éloignée de ses fonctions après avoir reçu des menaces de mort. Il veut assurer à la direction son soutien, dit-il.
Merci Mathilde Vinceneux, en direct de Marseille pour Inter. Le ministre de l'Intérieur, lui, Bruno Retailleau, était sur le terrain le 31 décembre dans un commissariat parisien pour parler sécurité et saisie de mortiers d'artifice. Et il a communiqué hier soir sur le bilan de la nuit du réveillon du nouvel an. Près de 1000 véhicules incendiés, plus de 400 personnes interpellées. Le produit, dit le ministre, je le cite, d'un ensauvagement. Emmanuel Leclerc, vérifions tout cela avec vous. Ce bilan est-il plus lourd que celui de ces dernières années?
Alors, il est en hausse par rapport à l'année dernière. Quelques 200 voitures en plus, mais c'est faux par rapport aux années 2000-2010 où l'on comptait en moyenne chaque année autour d'un bon milieu de voitures, un bon millier de voitures calcinées, sachant qu'il suffit parfois d'une seule voiture volontairement incendiée pour que vous ayez un parking de résidents entier ravagé avec la propagation des flammes, sans parler des escroqueries aux assurances. Ce qu'il faut voir, en réalité, c'est le nombre de guet-apens tendus aux pompiers et aux policiers à partir de feux de poubelle et de véhicules avant de déclencher des tirs de mortier d'artifice, un chiffre qui, lui, n'est pas communiqué. Est-ce que c'est le produit d'un ensauvagement d'adolescents de quartiers populaires en lien avec l'immigration, comme le stigmatise le ministre de l'Intérieur, et bien d'autres avant lui, à l'extrême droite, puis à droite et à gauche, dans les années 90, avec le terme, vous savez, sauvageon. Mm-hmm. Est-ce que c'est de la violence gratuite, alors que ces guet-apens, ces rituels délinquants sont très codifiés et ciblés, en l'occurrence contre la police? Est-ce que les groupes d'adolescents impliqués travaillent le reste de l'année pour le narcotrafic? On le saura avec les profils qui ont défilé dans les commissariats lors des 310 gardes à vue qui ont été déclenchés et dont une partie comparaîtra dès cet après-midi dans les tribunaux judiciaires des villes concernées.
Emmanuel Leclerc, j'ajoute que concernant Mayotte, le projet de loi d'urgence pour l'archipel dévasté par le cyclone Chido, ce projet de loi sera finalement présenté en Conseil des ministres la semaine prochaine et non pas lors du Conseil qui est prévu demain. Précision de Matignon qui dit vouloir prendre le temps de la concertation avec les élus. Fin de citation. Je reviens au réveillon. Réveillon endeuillé à Strasbourg et sans lien avec les violences urbaines. Un ado de 15 ans est mort le 31, renversé par un chauffard. Et cet homme, recherché, s'est rendu hier soir à la police, Antoine Malandra.
Il est environ 22h30 lorsque l'homme se présente au commissariat de police de Strasbourg ce mercredi 1er janvier au soir. Il est immédiatement interpellé. Il s'agit d'un jeune homme tout juste majeur. Le parquet de Strasbourg confirme qu'il est désormais placé en garde à vue. Une enquête est ouverte pour homicide involontaire avec délit de fuite. Dans la nuit de la Saint-Sylvestre, cet homme est soupçonné d'avoir fauché au volant de son véhicule un adolescent de 15 ans avant de s'enfuir. Les faits se sont produits vers 1h du matin dans la cité de Lille, un quartier sensible du nord de la ville. Un jeune vient de se faire raccompagner par sa cousine pour rentrer chez lui rue de la Loche lorsqu'il est fauché alors qu'il sort tout juste de la voiture. Le chauffard prend immédiatement la fuite, laissant l'adolescent au sol. La victime meurt ensuite à l'hôpital quelques heures plus tard. L'enquête devra donc désormais faire la lumière sur les circonstances exactes du drame et surtout préciser le profil du suspect.
Précision France Bleu Alsace. Dans le territoire de Belfort, 7 bus à hydrogène ont été détruits la nuit dernière après un incendie. Sinistre particulièrement impressionnant si l'on en croit les voisins. Pas de pollution constatée. Les riverains momentanément confinés cette nuit ne le sont plus à 7 heures. Belfort est l'une des collectivités en pointe en France sur le transport à l'hydrogène. Une enquête est en cours. Les voyageurs ne font que les croiser quand ils quittent leurs hôtels ou leurs appart-hôtels. Mais sans elles, pas d'activité, pas de tourisme. Les femmes de chambre d'hôtel se mobilisent aujourd'hui à Marseille. Celles employées par les sociétés de sous-traitance de nettoyage Premium et Aqua, elles sont en grève et ce qu'elles n'acceptent plus, Justine Leblond, c'est de changer d'affectation en permanence.
Maria, 52 ans, est femme de chambre depuis 12 ans à Marseille. Un jour, elle est affectée à un hôtel, puis le lendemain à un autre et le surlendemain encore un. Elle est tout le temps obligée de s'adapter.
C'est trop dur pour nous parce que on n'a pas les chariots, il n'y en a pas les matériels, c'est pour chercher tout, c'est compliqué pour nous.
Et parfois, elles apprennent leurs affectations le matin même. En fait, elles sont trop peu nombreuses pour tout assurer, c'est ce qu'explique Safia, gouvernante dans un appart-hôtel.
Le tourisme d'aujourd'hui, en fait, c'est pas le même qu'avant Covid. On avait des périodes creuses et des périodes pleines où il y avait des embauches. Là, on est censé être période creuse, mais il y a trop de chambres et il n'y a pas de personnes embauchées pour faire du remplacement. Ça mobilise beaucoup plus de femmes de chambre à faire des déplacements.
En plus, ça affecte leur prime, le 13e mois par exemple, détaille Gaëlle Barbereau, juriste défenseur syndical.
Cette prime, elle est versée, mais sous condition de note qualité et note client. La note qualité, c'est vraiment le travail des femmes de chambre. Cette note, elle peut baisser quand les femmes de chambre qui sont là sont en remplacement, etc. Donc c'est totalement absurde.
Les femmes de chambre en grève réclament aussi une prime JO reçue par certains salariés, mais pas elles.
Reportage France Bleu Provence. Depuis le temps que les gouvernements promettent la simplification administrative, y arrivera-t-on un jour ? Il y a 2 ans, les millions de démarches administratives effectuées chaque année par les entreprises auraient dû basculer sur un guichet unique, mais la plateforme à l'époque ne fonctionnait pas. Et bien aujourd'hui, la plupart des dysfonctionnements sont réglés. L'ensemble des déclarations de création de société, modification de statut ou cessation d'activité se fait uniquement via le guichet unique géré par l'Institut national de la propriété industrielle, Claire Chaudière.
Le chantier était prometteur, mettre fin à la dizaine de portes d'entrée différentes pour les formalités administratives du monde économique, tribunaux et chambres de commerce, INSEE, URSSAF et connecter ces bases de données, mission titanesque.
Le défi était colossal et c'est vrai que lors de l'ouverture officielle, l'outil n'était pas encore totalement mature.
Hubert Mrose de l'association Notaire Conseil d'Entreprise aura été l'un des premiers témoins des difficultés rencontrées dès le début du nouveau site, géré par l'Institut National de la Propriété Industrielle.
On s'en est rendu compte immédiatement. Il y a eu une période vraiment noire.
Des signaux d'alerte qui remontent de partout en France, des ouvertures de commerce retardées, juristes et chefs d'entreprise s'arrachent les cheveux, marche arrière toute, des procédures de secours sont mises en place. La faute au manque de moyens et à la précipitation, regrette Hubert Mrose.
Ce qui a pu manquer, c'est du temps.
Malgré tout, très confiant aujourd'hui.
On a réatteint des délais qu'on connaissait auparavant. On peut avoir des extraits cabis de création de société sous 48 heures.
Selon la direction de l'Institut National de la Propriété Industrielle, la plupart des problèmes sont résolus, mais du côté des équipes de l'INPI, comme des petites entreprises, l'appréhension n'a pas disparu. De nouvelles corrections techniques sont prévues sur le site pour la mi-2025.
En Lorraine, depuis ce matin, c'est le début des soldes d'hiver qui débutent toujours dans cette région une semaine avant le reste de la France métropolitaine. La grande distribution, elle, fait le bilan des fêtes de fin d'année. Les Français ont acheté davantage de foie gras que l'an dernier et beaucoup plus, plus 31% davantage de poissons fumés qu'il y a un an également. En revanche, moins de vins effervescents, champagne compris. Les habitants de l'île de Ré débutent l'année avec une bonne nouvelle. Depuis hier, le tarif du péage du pont de Ré est divisé par deux. 4 euros seulement au lieu de 8 et ce sera comme ça jusqu'au 1er mars inclus. Conséquence d'une nouvelle grille tarifaire avec désormais l'introduction d'une troisième période, une période de basse saison. Et Julien Fleury, vous avez constaté que cette évolution est particulièrement bien accueillie.
Charles a fait un saut à la guérite du pont de Ré pour renouveler sa carte de péage prépayée. Le tarif réduit en basse saison, une bonne surprise pour ce Rochelais.
Si on peut bénéficier à 4 euros, ça permettra de faire plus de séjours et de voyages sur l'île de Ré en week-end ou autre.
C'est quoi votre plaisir, vous, d'aller sur l'île?
Ah ben c'est juste changer un petit peu d'air de La Rochelle et puis profiter des grandes plages et voilà, et se faire un petit restaurant ou autre.
Bonne nouvelle aussi pour les pêcheurs à pied, nombreux à franchir le pont lors des week-ends hivernaux de grande marée. Quant aux résidents de l'île, ils approuvent aussi. Jean-Claude se sent parfois bien seul au bois-plage certains jours de janvier.
Moi, je vais à pied chercher mon pain pendant 1,5 km, je ne vois personne. Seulement à la boulangerie en arrivant. Il y a enfin la boulangère, déjà, c'est pas mal. Mais c'est tout, hein, souvent.
Donc, mettre un peu de vie l'hiver, c'est pas idiot?
Ben non, c'est très bien, oui, bien sûr.
L'idée des élus départementaux, c'est aussi de donner un coup de pouce au commerce local durant la morte saison. Isabelle vend des produits apéro sous les Halles de Rivedoux. Elle se voit déjà damer le pion au marché Rochelet.
Effectivement, 4 euros, je pense que les gens vont moins se poser de questions. Dès qu'il fait beau, on va avoir du monde, ouais. Ça va être top.
Une bonne nouvelle qui a tout de même son revers. Les week-ends de mai hyper fréquentés, Ascension et Pentecôte, seront désormais au tarif haute saison, 16 euros contre 8 jusqu'à présent. D'ailleurs, au final, cette réforme ne devrait rien changer à la recette annuelle de l'écotaxe collectée au péage du pont.
Voilà, passer le pont, les week-ends de pont coûtera en revanche plus cher. Explication France Bleu La Rochelle. Et puis cette histoire qui nous fait débuter l'année 2025 de manière très positive, ça se déroule en Dordogne. Un couple de Sarliac-sur-l'Isle a connu un accouchement particulièrement remarquable pour Guylaine et Frédéric. Leur bébé est arrivé 10 jours avant le terme et en quelques minutes, le matin du réveillon du Nouvel An, il est littéralement tombé dans les bras de son papa. À la maison, c'est un petit garçon qui pèse 3,150 kg pour 50 cm. Tout s'est déroulé, en fait, Thibaut Delmarle, en quelques minutes.
Pendant la nuit, Guylaine a des contractions. Nous sommes à 10 jours du terme et elle sort d'un rendez-vous chez la sage-femme. Calme, elle rassure surtout le futur papa, Frédéric.
Il était couché, je lui dis, mais pas de panique, j'ai écouté ma sage-femme, je vais prendre un bain chaud, ça va aller. Et en fait, ça a été mais vraiment très très rapide. Hein.
Guylaine a juste le temps de sortir de la baignoire et sur le chemin des toilettes, Orson vient au monde en quelques secondes.
Je me suis relevée et là, devant les toilettes, j'ai senti vraiment sa tête. En fait, j'ai senti que c'était trop tard. Je me suis dit, aïe aïe aïe, je crois que c'est fichu.
Le papa est accroupi devant sa compagne qui est debout.
Et je regarde et effectivement, je vois une petite touffe de poils apparaître et... Il y a un petit crâne, et du coup, j'ai juste eu le temps de mettre les mains et de réceptionner. Il m'a presque sauté dans les bras, on va dire. Ah, mais je suis très fier d'avoir pu faire ça. Hein.
Un accouchement très rapide après une grossesse difficile, un bébé surprise.
Troisième mois de grossesse, on a su que voilà, le bébé avait une malformation. Ça a été assez compliqué, on ne savait pas trop si on pouvait le garder ou pas. Et il nous en a fait voir, et en fait, il nous a confirmé qu'avec le jour du réveillon, c'était vraiment le bébé surprise. Qui avait décidé jusqu'à la fin que c'est lui qui déciderait.
Et après une opération bénigne, Orson et ses parents pourront rentrer à Sarliac avec de sacrés souvenirs.
Famille cinéphile, puisque ce petit se prénomme Orson en hommage au grand cinéaste américain Orson Welles, récit de France Bleu Périgord, 13h27 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac. Puis à partir de 13h30, un homme qui passe sa vie à pédaler et à écrire, Éric Fotorino, que vous connaissez bien. Il publie le dictionnaire amoureux du vélo et il partage cette passion avec vous. 01 45 24 7000 pour vos questions et vos témoignages. Cette passion est peut-être aussi la vôtre. Alors allez-y, passez également par l'application France Inter. 13h45, le meilleur de notre feuilleton. Aujourd'hui, profession secrétaire de mairie. Nous serons dans le département du Gers. 13h50, c'est la France avec Marilus Ribaud du journal Sud-Ouest. Bonjour Marilus.
Bonjour.
Et meilleurs vœux à vous et à tous vos lecteurs, bien évidemment. Vous aviez beaucoup de choses, Marilus, en commun avec Maïté, qui vient de nous quitter, et vous voulez lui rendre hommage.
Oui, il se trouve que ma grand-mère était sa voisine à Rion-des-Landes. Sa générosité était bien réelle. Il est moins certain que Maïté appréciait de passer pour l'icône, voire la caricature d'un monde rural englouti.
Et vous nous en parlerez dans quelques minutes. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson, toujours les années 80. Le comédien Arié Elmaleh demande George Michael à Frédéric Pommier. À tout de suite.
France Inter, partenaire de Requiquinella, une création théâtrale d'Emma Dante à la Colline Théâtre National. Voici un roi devenu poule qui chaque jour pond un œuf en or. Emma Dante n'en finit plus de piocher dans le délicieux conte des contes de Giambattista Basile. Après la Scortecata et Pupo di Zucchero, elle nous livre cette nouvelle fable atrocement drôle. Requiquinella à la Colline Théâtre National du 7 au 29 janvier, un spectacle France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Je n'ai pas eu l'occasion de vous souhaiter une bonne année, donc je le fais en direct au nom aussi de tous les auditeurs et de toutes les auditrices d'Inter.
Merci, très Élodie. Bonne année à tous également.
Une journée perturbée.
Oui, alors de la Vendée et des Landes vers le nord-est et le nord des Alpes, les pluies seront copieuses aujourd'hui, avec du vent jusqu'à 60 à 80 km à l'heure. C'est de la neige sur les massifs, parfois jusqu'en plaine sur le Grand Est, puis sur la Bourgogne-Franche-Comté ce soir. Les sols peuvent temporairement blanchir dès 300 à 400 mètres sur les premières hauteurs. Du Pays Basque vers le sud des Alpes, là c'est très voilé. Le soleil résiste davantage près de la Méditerranée, sauf sur l'ouest de la Corse, c'est gris, parfois pluvieux. De la Bretagne vers le bassin parisien et le nord de la Seine, là ça devient plus changeant. Retour d'éclaircies par le nord, mais encore quelques averses cet après-midi. Comptez souvent 1 à 6 degrés sur le nord-est, 6 à 12 ailleurs, jusqu'à 14 au pied des Pyrénées et 12 à 16 en Méditerranée. Demain on va avoir des gelées sur le nord le matin, donc attention sur les routes, ça va glisser. Il y aura pas mal de grisailles, parfois givrantes, quelques flocons encore le matin vers le massif central et les Alpes à très basse altitude. On surveillera l'arrivée de nouvelles pluies sur le sud-ouest. Et puis pour le week-end, ce sera encore perturbé, Jérôme, avec des pluies sur l'ouest et le massif central pour la journée de samedi. Au nord pour dimanche, il fera froid encore samedi et puis dimanche, dégelé toujours sur le nord-est, mais déjà 10 degrés près de l'océan le matin et des températures en nette hausse pour l'après-midi.
Merci Élodie Calac, Météo France.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Si vous trouvez que décidément un 2 janvier avec le temps que vient de nous annoncer Élodie Calac, ce n'est pas un jour à mettre un cycliste dehors, qui plus est en cuissard, qu'il faut attendre les beaux jours pour goûter pleinement les joies du vélo, alors je tiens l'homme qui va vous démentir, il s'agit d'Éric Fotorino. Bonjour Éric.
Bonjour Jérôme.
Merci d'être avec nous, d'habitude vous êtes là le mercredi pour votre chronique C'est la France et exceptionnellement donc aujourd'hui pour parler de ce dictionnaire amoureux du vélo, c'est aux éditions Plomb, dans une collection qu'on commence à bien connaître. Éric Fotorino, patron de presse, journaliste et avant tout cela, cycliste, amoureux fou de vélo. C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui et du vélo sous toutes ses formes. La compétition, d'accord, vous en avez fait, Éric, mais aussi la balade en famille, la balade du dimanche, et puis le vélo, l'instrument qui nous permet de nous déplacer. On parlera de votre vélo si particulier, cher Éric. Vous vous déplacez sans polluer et en faisant un peu d'exercice ou beaucoup. C'est important. Et de tout cela, on parle ensemble, 01 45 24 7000 pour vos appels, témoignages ou questions. D'ailleurs, vous passez également via l'application France Inter. Il n'y avait pas encore de dictionnaire amoureux du vélo. J'étais surpris par ça, Éric Fotorino. Comment est-ce possible?
Non, mais depuis des années, l'éditeur me disait « mais on t'attend
ben ».
Et moi, je me faisais attendre parce que c'est beaucoup de temps pour justement, même s'il faut, on ne peut pas tout dire. Vous savez, c'est Voltaire qui disait « le secret d'ennuyer, c'est de tout dire ». Alors, je n'ai pas tout dit, mais j'ai essayé quand même de dire ce qui était essentiel pour moi de ce vélo.
Vous savez que vous avez été coiffé au poteau par le dictionnaire amoureux de l'automobile.
Oui, c'est vrai.
Il est sorti juste avant, signé par le patron de Renault, Luca De Meo. Il est sorti un mois avant le vôtre. Mais on peut aimer les deux, on peut aimer le vélo et la bagnole.
Moi, je suis automobiliste, évidemment, depuis que j'ai mon permis, c'est-à-dire depuis que j'ai 18 ans. Mais cycliste, depuis que j'ai eu ce premier vélo, comme beaucoup d'entre nous, à 3-4 ans, avec les petites roues stabilisatrices. Et puis, jusqu'au jour où on les a démontées et où j'ai ressenti vraiment, mais presque physiquement, cette sensation de liberté.
Ce dictionnaire fonctionne par article. Il y a beaucoup d'entrées qui nous ramènent à l'enfance.
Et oui. Je dis souvent que le vélo est un jeu d'enfant qui dure longtemps, mais, mais c'est vrai parce que j'y joue encore. Et, mais c'est vrai que j'ai encore le souvenir de mon premier vélo sous un sapin de Noël.
C'était à Bordeaux
C'était à Bordeaux, on habitait tout en haut d'un immeuble et je ne sais pas comment ma mère s'y était prise pour amener ce vélo jusque là-haut. Et c'est vrai, il avait un petit drapeau, ça devait être Peugeot d'ailleurs, je crois. Et donc pour moi, ça a été quelque chose d'émotionnel très fort, quelque chose de très simple en fait, hein. Et ces deux roues comme ça, c'est justement la roue, c'est très important. Je crois. Il y a un côté hypnotique dans le vélo, il y a un côté très doux. Je dis quelquefois qu'il casse les angles, et c'est vrai que c'est un triangle et deux roues. Et ben moi, ce triangle et deux roues, ça a fait vraiment ma vie.
Vous écrivez, Eric Fotorino, sur mon vélo, j'étais dans ma bulle d'enfant, je n'en suis jamais vraiment sorti. Ouais. Est-ce que c'est votre cas, Pierre ? Bonjour, Pierre.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Toulouse.
Oui, je vous appelle de Toulouse. Alors voilà, moi, j'ai une chose qui est intéressante, c'est que j'ai appris à faire du vélo sur la piste de Montaudran, qui, à l'époque, était servait d'atelier pour Air France. Et il se trouve que je suis parti de Vancouver au Canada.
Donc un peu plus tard, hein, c'est ça ?
Comment ?
Vous avez appris à faire du vélo, voilà, dans ces conditions-là. Donc ça, c'est le retour à l'enfance, si je puis dire. On en parlait avec Eric. Et puis après, il y a eu cette grande aventure, Pierre.
Voilà. Et alors, je suis parti de Vancouver au Canada jusqu'à Santiago du Chili. Alors effectivement, je relis l'expérience initiale parce que je suis parti de Montaudran jusqu'à Santiago du Chili. C'était le trajet de l'aéropostale.
Ah. Le lien entre l'avion et le vélo avec vous, Pierre, c'est ça. Et puis votre ville d'origine, Toulouse, bien sûr.
Voilà, tout à fait. Donc en 2010, je travaillais encore. J'ai eu la chance de pouvoir prendre un CET de longue durée. Et je suis parti, donc j'ai été jusqu'à Santiago, mais en plusieurs étapes. Et le voyage à vélo, c'est quelque chose donc qui permet, qui facilite les contacts. Je dirais dans certains pays qui ont pourtant mauvaise réputation, j'ai traversé le Mexique, j'ai traversé la Colombie, et c'est des pays où j'ai été, mais alors magnifiquement reçu, dans beaucoup d'endroits, et bon, en plus, bon, je parle un peu espagnol, donc ça facilite beaucoup les choses.
Merci donc, Pierre, merci beaucoup pour ce témoignage, Pierre, et sur la facilité des rencontres à vélo, Eric Fotorino.
Oui, ça c'est vraiment, ça fait partie, moi, ce que j'appelle la camaraderie du vélo, à la fois entre nous, entre cyclistes, quand on se balade, j'ai tellement d'images des dimanches matins où on part très tôt, il fait pas toujours très beau, on a un peu froid, et puis au fur et à mesure, bah, on discute, et puis après on parle moins parce qu'on roule un peu plus vite, on traverse des villages, on sent les odeurs des boulangeries, il y a des gens qui passent, des gens qui écoutent la radio, on emporte un air de musique. Et puis, c'est vrai, j'ai emmené en 2013 25 jeunes faire un tour de France. Moi, j'avais déjà 53 ans, j'avais besoin de jeunes avec moi pour m'aider à passer l'école. Et c'était incroyable.
Jeunes de toutes origines ?
De toutes origines. C'était justement, j'avais dit à Christian Prudhomme, le patron du tour, j'aimerais faire un tour un peu plus mélangé, qui soit un peu moins blanc classe moyenne que le Tour de France professionnel. Et là, j'ai emmené ces jeunes, et ce qui était extraordinaire, c'était les gens sur la route qui nous servaient des coups à boire, qui nous donnaient à manger, qui nous encourageaient quand la pente était rude. Et moi, j'ai toujours aimé ça. Quand on crève, par exemple, ou quand on tombe, bon, y a toujours quelqu'un pour venir nous relever, toujours quelqu'un pour nous aider à changer le pneu, la chambre à air, à nous tendre une pompe, etc. Et moi, j'aime bien ça parce que ce sont des gens à qui on ne parlerait pas nécessairement dans la vie normale et qui, tout d'un coup, face à des coureurs, des cyclistes, qui emportent justement avec eux ce petit air de liberté, ça baisse les défenses, ça nous fait redevenir un peu humain, le vélo. Oui.
Et quand on dit à des gamins, vas-y, enfile ton cuissard,
oui.
Ils le font naturellement, parce que c'est pas
ça dépend
toujours
lesquels.
La tenue
Non, ça dépend lesquels, parce que cette allure
rêver.
Un peu de torero du pauvre, hein, mais un peu bariolé, un peu bigarré. Je sais par exemple que j'avais regardé ça quand j'avais organisé ce Tour de France, dans les banlieues, les jeunes préfèrent la tenue du footballeur à celui du cycliste, évidemment. Et puis après, il y a une question de coût. Faire du vélo, ça coûte plus cher que de taper dans un ballon de foot.
Y a beaucoup, je l'ai dit, d'entrées qui sont liées à l'enfance. C'est votre père, c'est une histoire de filiation, c'est votre père adoptif, Michel, qui vous donne le goût du vélo, Eric Fotorino. Ça, c'est très important. Vous racontez notamment le premier jour, vous avez 13 ans, où vous lâchez votre père dans une côte.
Ah oui, ça a été évidemment très émouvant, même si je ne m'en rendais pas bien compte sur le coup de ce que ça voulait dire. Mais mon père, qui était un type physiquement une sorte de force de la nature, comme ça, impressionnant. Et on est allé faire un tour dans lequel il y avait quelques côtes, notamment, je me souviens, une côte qui s'appelle Loumo.
Près de La Rochelle, tout près on était au pont de l'île de Ré.
Vraiment juste avant le pont de l'île de Ré, il y a la côte de Loumo. Et moi, bon, j'avais 13 ans, j'étais léger comme un gamin de 13 ans. Et puis, on parlait, et puis après, là, justement, on s'est tu. Il y avait du vent, comme souvent dans cette région. Et à un moment donné, j'ai un peu appuyé sur les pédales et j'ai regardé droit devant moi sans me retourner. Et quand je me suis retourné, mon père était 30 ou 40 mètres derrière et je l'avais largué. Et ça a été presque une sorte de tout coqui, mi filio, toi aussi mon fils. Et finalement, voilà, c'était une sorte d'émancipation, d'affranchissement.
Et puis, il y a de très belles lignes aussi sur vous et votre père dans le Tourmalet, après Côte à Côte. Voilà, c'est aussi la transmission qui se fait sur les pentes des grands cols, parce que vous avez cette passion pour le Tour de France qui vous a toujours habité, Eric Fotorino, parce qu'aujourd'hui le vélo est redevenu à la mode, on va en parler, et en ville notamment, combien de cyclistes. Enfin, les années 90, les années 2000, quand on était cycliste, je ne vais pas dire qu'on rasait les murs, mais enfin, ce n'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui.
Non, enfin, disons qu'il y a eu plusieurs époques. Hein. Moi, je commence dans ce livre avec les années 70, mes grands champions, mes grands héros comme Louis Socagna, comme Bernard Thévenet, Woody Merckx, et puis la mythologie de Fausto Coppi, que je n'ai pas connu, qui est mort l'année de ma naissance. Et puis effectivement, dans les années 80, a commencé à surgir, et surtout, évidemment, encore plus tard, 98, l'affaire Festina, vous vous souvenez, donc l'affaire du dopage, toutes ces années où le Tour de France n'a pas de vainqueur, puisque Lance Armstrong, son nom a été même effacé des tablettes. Donc c'est vrai que les cyclistes avaient une plus mauvaise réputation. Mais je crois que les gens faisaient quand même la différence entre les coureurs professionnels et puis le cycliste du dimanche qui va monter quelques côtes.
Les grands champions sont là dans ce dictionnaire amoureux du vélo. Fausto Coppi, bien sûr, dont vous parle votre grand-mère. Et puis il y a des cyclistes et des champions actuels, notamment un qui nous a tous beaucoup marqués. On aurait aimé qu'il remporte le Tour de France. Ouais. L'histoire s'est écrite différemment. C'est Thibaut Pinot. Depuis qu'il a raccroché, Thibaut Pinot ne donne plus d'interview. Mais pour vous, il nous a envoyé ce message ce matin.
Bonjour Eric, c'est Thibaut. Voilà, je voudrais vous féliciter pour votre petit livre. Voilà, je suis un grand fan de vous et j'espère qu'on arrivera à se croiser bientôt sur les routes ou en Franche-Comté dans mes Vosges. Merci, à bientôt.
Voilà pour ce petit message sympa envoyé par Thibaut Pinot. Oui. C'est peut-être d'avoir évoqué le Tourmalet où il fut vainqueur.
Quel beau champion Thibaut, parce que justement c'est vraiment la tête et les jambes. C'est quelqu'un qui a un cœur de sportif, mais aussi un cœur qui s'émeut. Et donc c'est pas une sorte de bête comme ça, un peu insensible à tout. Et c'est vrai que pour moi ça a été le grand coureur romantique, j'allais dire. C'est-à-dire que quand il était en forme, il cassait tout. Et puis il y a des jours sans, et des jours sans, il était vraiment... Il se sentait lui-même minable et c'était terrible parce que nous, on souffrait pour lui. Mais je trouve qu'il avait une grandeur d'âme que peu de champions ont.
Alors ça, c'est le vélo des champions. Et puis, il y a le quotidien où parfois, il faut être un champion pour aller au bout des côtes. Quand on va au boulot, par exemple, la cohabitation n'est pas toujours simple aussi avec les voitures. Michel nous appelle de Nantes. Bonjour Michel.
Ah, bonjour, ravi de pouvoir porter témoignage. Je suis nantais dans une ville qui s'équipe de plus en plus.
Ouais.
Et je suis un amoureux de la petite reine sous toutes ses formes. 77 ans, sans assistance électrique. Ah. Je fais 8 à 10 kilomètres par jour en ville. Et 3 à 4 000 kilomètres par an en grande randonnée. Je viens de faire, par exemple, Nantes-Le Mont-Saint-Michel en 4 jours, sans assistance, et j'en suis heureux. Et alors, quand j'en parle, je dis que c'est un sentiment de liberté inouïe, comme disait Eric, de pouvoir doubler toutes ces voitures monoconducteurs bloquées dans les bouchons. Je les provoque en leur faisant un joli petit signe. Et juste après, je vais féliciter toutes ces jeunes mamans en vélo cargo avec 2 ou 3 enfants et qui, elles aussi, ont compris que le vélo, c'est à la fois de l'écologie, de l'économie, et de l'environnement. Donc, c'est une forme physique toujours maintenue et toujours entretenue, notamment pas pour les articulations. Quand on vieillit, c'est très important.
Merci Michel pour ce témoignage. J'ajoute celui de Pascal sur l'application France Inter. Je circule à vélo pour aller au travail. 7 km aller, pareil au retour. Tout ce que je peux faire, je le fais à vélo. Le problème, c'est les pistes cyclables. Voitures garées dessus ou alors des deux roues motorisées qui slalomment dessus. Il nous écrit de Levallois-Perret. Vous écrivez aussi sur cette cohabitation, Eric Fotorino, et vous dites « Je ne partage ni ne participe à l'anarchie collective qui s'est emparée des cyclistes, mes frères et sœurs qui font fi du code de la route et vous coupent la route dans tous les sens, au péril de leur vie, mais aussi de la vôtre. » Donc, oui. Les cyclistes ont aussi des comportements à modifier.
Oui, bien sûr, parce que c'est un espace partagé. D'ailleurs, on dit maintenant qu'il y a des espaces partagés, voitures, cyclistes, piétons, etc. Je crois qu'on est très en retard. Je me souviens d'avoir commenté le départ d'un Tour de France aux Pays-Bas, à Utrecht, et j'avais été fasciné de voir quasiment ces autoroutes de vélo, mais surtout ces espaces, j'allais dire, de la ville traditionnelle, où les gens savaient très bien où ils devaient être. Les cyclistes avaient leur place, les voitures aussi, et les piétons aussi. Et ça, je rêve de ça, mais vous savez, c'est un apprentissage. Je crois qu'on a fait quand même beaucoup de progrès, et peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on aura des villes adaptées à tous ces modes de déplacement.
Mais vous êtes franc, parce que vous reconnaissez que vous grillez de temps en temps quelques feux rouges et quelques stops.
Le tourner
pas
à droite.
Un cycliste parfait.
Non, ah non, non, je sais.
Alors
pas
on a
le droit
de tourner à droite quand il y a le panneau.
Oui, oui, mais enfin, quelquefois je grille des feux parce que je vois qu'il n'y a vraiment personne. Bon. Donc c'est vrai que peut-être je vais me faire arrêter en bas du studio tout à l'heure. Mais voilà.
Alors, pour tout dire, vous venez le mercredi à vélo pour cette chronique. Vous avez c'est même vrai. Chuté et assez gravement il y a quelques mois. Moi, j'étais épaté de vous voir revenir après à vélo les semaines d'après.
Les risques du métier.
Voilà, avec votre Brompton. Il faut nous parler de votre vélo, Eric Fotorino. Il en reste une trentaine de secondes.
Notre auditeur disait les articulations. C'est effectivement les vélos pliants. J'ai un vélo pliant, comme ça, et je suis jamais en retard à mes rendez-vous, sauf si je tombe. Les vélos pliants, souvent, ils sont fragiles à cause des articulations, comme les humains. Et ce Brompton, qui me porte depuis 15 ans, Jérôme, depuis 15 ans.
Le même vélo.
Le même vélo. Et je l'ai fait réparer il n'y a pas longtemps, et les réparateurs m'ont dit, bon, maintenant, il va rouler encore 15 ans. J'ai dit, j'espère que moi aussi, je pourrais. Il est formidable, parce que c'est un vélo anglais, mais à Paris, il roule à droite. Et c'est un vrai vélo. C'est pas parce qu'il a des petits trous que c'est pas un vrai vélo. Et j'ai un grand plaisir quand j'arrive à la maison de la radio. Je viens de Saint-Lazare, de mes bureaux du 1, et ça fait que des kilomètres où je longe les quais de Seine. Et quand je repars, là encore, j'ai ce plaisir de m'aérer, de passer devant la Tour Eiffel. Et quand les berges sont fermées pour les voitures parce que c'est inondé, il y a toujours un petit morceau de bitume pour moi. Et je passe tout seul.
Et c'est à la lettre B dans ce dictionnaire amoureux du vélo. Le Brompton, c'est donc la marque de votre vélo. Merci infiniment, Eric Fotorino,
merci,
d'avoir
Jérôme,
été avec nous
vous.
Aujourd'hui. Ce dictionnaire est aux éditions Plomb, 13h46 sur Inter. 9h. Notre feuilleton. Toute cette semaine, nous retrouvons les personnages qui nous ont marqués ces derniers mois et dont le parcours fait écho à l'actualité. Ce début d'année est marqué par la fusion partout en France de nombreuses communes qui se regroupent, qui mettent en commun leurs moyens. Et c'est déjà le cas dans beaucoup d'entre elles pour les secrétaires de mairie, métier méconnu mais indispensable au fonctionnement des petites communes. 94% d'entre elles sont des femmes qui travaillent donc pour plusieurs collectivités. C'est le cas dans le Gers de Sylvie Gibel, à l'œuvre dans 4 municipalités. Laurence Peron l'avait retrouvée ce jour à Montpezat, 240 habitants.
Mairie de Montpezat, bonjour. Oui, un CU opérationnel, c'est pour un projet. Je m'appelle Sylvie Gibel, j'ai 58 ans. J'ai perdu mes parents très jeunes, donc j'étais obligée d'arrêter les études. Et ma mère avait un restaurant, donc pour pallier ma soeur qui était encore étudiante, qui était mineure. Eh bien, pour pallier à ça, il a fallu que je reprenne la succession de ma mère. Donc, à 20 ans, je me suis retrouvée dans l'hôtellerie-restauration. Je me suis retrouvée larguée, j'ai repris cette affaire. Et puis après, à l'époque, le maire du village de Simor avait eu un peu pitié de moi et m'avait dit, si tu veux, je prends des contrats aidés dans les mairies. Et puis j'ai été prise de passion. La secrétaire de mairie qui avait à l'époque m'a transmis sa passion. J'ai passé des concours. Et depuis, ça fait presque 28 ans, je suis secrétaire de mairie. Quand on dit secrétaire, bon, ben les gens s'imaginent qu'on est relayé un petit peu au rang de la personne qui tape des courriers du maire, qui répond au téléphone. Je ne sais pas du tout ça. Alors effectivement, il y a 28 ans, c'était un peu différent. Je parcours le territoire toute la semaine sur 4 communes et je trouve ça passionnant. On a des relations privilégiées avec nos élus. On a un travail de confiance, hein. On est des collaboratrices et on n'est pas des secrétaires. Hein. Ils comptent beaucoup sur nous. Eux, ils sont là pour faire des choix politiques. Nous, on est là pour exécuter réglementairement et juridiquement ces choix politiques sur le territoire. Ça va de la comptabilité à la conception du budget, au marché public quand ils engagent des travaux. On est là pour monter les dossiers avec eux, les accompagner, nous, par la partie réglementaire et juridique, pour obtenir le maximum de subventions, pour que ce soit des projets pour lesquels les finances de la commune ne sont pas trop impactées. On est là pour trouver des financements un peu partout, à droite, à gauche, c'est notre boulot. Madame Desclos,
Oui, alors je parle pas bien parce que je me suis fait arracher 10 dents. Hein. Donc excusez-moi. Oui, oh, sagesse, oui, non.
Je ne peux pas me permettre de manquer parce que je suis sur 4 communes et personne ne me remplace. Hein. On est dans une période où il y a beaucoup de travail. On est en clôture de compte, on est en ouverture, on a le budget à préparer, le compte administratif. Et si je ne suis pas là, c'est double peine quand je vais revenir. Pour rattraper, surtout que je suis tous les jours sur une commune différente. On est là pour de l'accueil du public aussi, mais de moins en moins. On nous a enlevé des compétences, on nous en a rajouté. Aujourd'hui, nos missions sont des missions d'agents de l'État. On est des techniciennes qui rentrent des données toute la journée sur X plateformes. Voilà notre fonction aujourd'hui. Donc, en octobre 2021, quand j'ai vu que l'AMF avait, l'Association des maires de France avait publié un communiqué sur la revalorisation des secrétaires de mairie, donc ils avaient fait part de tout un tas de propositions. Je me suis saisie de ça, et je me suis dit, mais pourquoi pas lancer une enquête, hein. On est un bon flot à partir à la retraite, à peu près 32%, et d'ici 2030, il n'y a pas de candidat, plus de 2000 postes à pourvoir. C'est très mal rémunéré, le SMIC. Le problème, c'est que c'est un métier, il faut avoir des compétences en droit, en finance, en ressources humaines, en droit funéraire, en droit du sol. Si vous restez avec moi aujourd'hui, vous allez voir qu'on gère tout un tas de domaines. Hein. Allez, super.
Sylvie Gibel, secrétaire de mairie volante. Feuilleton signé Laurence Perron avec la réalisation de Stéphane Ronxin que vous retrouvez sur l'application Radio France.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France à 13h50. Le jeudi, nous parlons gastronomie avec Marilus Ribaud du journal Sud-Ouest en direct de Bordeaux. Marilus, vous rendez hommage aujourd'hui à la cuisinière Maïté, disparue avant Noël.
Avec une pointe d'émotion, car Maïté était du même village que ma grand-mère dans les Landes, à Rion. Je l'ai vue enfant, avant qu'elle ne devienne le personnage truculent de la cuisine des mousquetaires. Je l'ai rencontrée aussi après, quand elle a ouvert son restaurant, pile à côté de la maison familiale. Jamais on n'avait vu autant de plaques d'immatriculation différentes dans Rion. Indéniablement, la vie de Maïté et un peu celle du village avaient changé. Mais elle restait la même, simple et joyeuse, semblant mettre à distance cette soudaine notoriété. Quand ma grand-mère a décliné, elle lui a chaque jour apporté un bol de soupe. En milieu rural, la nourriture est l'un des principaux vecteurs de solidarité.
Et il y aurait donc, Marilus, un décalage entre le personnage qu'elle est devenue et ce que fut sa vie ?
Dans le déluge d'articles publiés après son décès, on la peint en sentinelle des traditions locales, un apôtre du bon sens paysan, en, ouvrez les guillemets, cantinière visionnaire. Je ne suis pas sûre qu'elle en demandait autant, surtout quand affleure ce soupçon de dédain. Tout comme elle a dû s'interroger si en février 2023 lui est parvenu un beau livre toilé, totalement conceptuel, intitulé « Ça ne gâche rien », l'une de ses phrases passées à la postérité. Cet ouvrage imaginé par une artiste du langage reproduit in extenso 12 dialogues entre Maïté et Micheline, celle qui lui donnait la réplique sur le plateau de la cuisine des mousquetaires. Excusez-moi, mais ça fait un peu bête de cirque.
Elle était tout de même un personnage haut en couleur.
Oui, et si Maïté est demeurée célèbre, on le doit sans doute aussi à Lina qui fait formidablement ressurgir le passé sur nos fils Instagram. Les ados d'aujourd'hui découvrent Médusée, cette femme à l'accent chantant qui tue des bêtes en direct, mange des oiseaux désormais interdits, ne rechigne pas sur les rasades d'Armagnac et les cuillères de graisse de canard. Mais même dans les années 80 et 90, tout cela relevait de la mise en scène et d'un zeste d'outrance. Maïté faisait le spectacle, elle le savait bien, mais à ce moment-là, son personnage lui appartenait.
Nous allons donc, Marilus, cuisiner l'une des célèbres recettes de Maïté.
Eh bien non, parce que vous les trouverez à la pelle sur le net. Je vais plutôt évoquer un plat qu'elle aimait tout particulièrement et dont elle était une ambassadrice, le panturon.
Le panturon ? Qu'est-ce que c'est que ça, le Panturon ?
Le Panturon, c'est la spécialité micro-locale de Rion-des-Landes. Une recette menacée d'extinction parce qu'il faut la cuire pendant des heures et qu'elle n'est pas, comment dire, gastronomiquement correcte. Nous voici donc à Rion et ses environs au 19e siècle. Il faut imaginer cette lande nue, pauvre, envahie par les marécages. La campagne de plantation des pins sous Napoléon III vient à peine de débuter. Les bergers, sur leurs échasses, gardent les moutons. Quand viennent les fêtes de Pâques, les maîtres, les moussus, captent les beaux morceaux de viande des agneaux de lait, à leur sujet de se débrouiller avec la rate, le foie, le cœur, les poumons et le sang des bêtes. C'est avec tous ces bas morceaux qu'ils ont réalisé un délice et dont je garde, mais oui, un souvenir merveilleux. Dans un courbouillon de carottes, navets, oignons, persil, ail, de quatre épices, de clous de girofle et de dés de jambon, débiter tous ces abats et laisser mijoter le tout en liant avec le sang de l'agneau. En 1994, les Rionnais avaient lancé la confrérie du Panturon. Maïté l'avait cuisiné pour 400 personnes. Tout le village l'avait acclamé. Au revoir Maïté, à Dichatz.
Merci Marie-Luce Ribaud du journal Sud-Ouest pour cet hommage intime à Maïté de C'est la France. Ah, c'est une chanson. Frédéric Pommier nous propose une semaine spéciale années 80 avec aujourd'hui le comédien Harry Elmaleh, c'est le petit frère de Gad, qui choisit un titre de 1988, Kissing a Fool de l'anglais George Michael. Il l'a découvert au milieu des années 80 grâce au morceau de Wham, le groupe que George Michael formait à l'époque avec un copain de lycée.
Les premières images pour moi, c'est Wake Me Up Before You Go Go, c'est-à-dire le clip où c'est une espèce de concert et ils ont des tenues pas possibles avec des shorts et des mitaines jaune fluo. Et le clip commence, ils sont un petit peu courbés, ça commence avec des claquements de doigts. Before You Go Go. Et voilà, il y avait ce groove de cette chanson qui m'a pris tout de suite.
Donc là, vous aviez quel âge ?
J'avais 9 ans. Et j'habitais au Maroc. On recevait les clips par les voyages de nos oncles et tantes, c'est-à-dire qu'ils enregistraient sur des cassettes VHS en France et ils nous les ramenaient. Il y avait les clips, mais il y avait aussi les pubs françaises qui nous faisaient rêver, les pubs pour le Nutella, des produits qu'on n'avait pas.
Avec Nutella, des images lumineuses sur un décor qui brille la nuit.
Et en fait, on regardait des clips comme on regardait des films, c'est-à-dire on mettait la cassette au début et on la rembobinait, puis on rentrait de l'école et on regardait. Alors, je ne sais plus qui nous a filé cette cassette, mais je crois que c'était un pote de mon frère qui nous avait prêté cette VHS qu'on avait gardée assez longtemps parce qu'il nous la réclamait régulièrement. Et je crois qu'on ne lui a jamais rendu. You are far when I could have been your star. You listen to people who scared you to death and from my heart. Strange that you were strong enough. To even make a start, but you'll never find peace of mind till you listen to your heart. People, you can never change the way they feel. Better let them do just what they will, for they will. If you let them steal. George Michael, ça sonne toujours, c'est toujours délicieux, j'ai envie de dire. J'aime bien la douceur, le côté suave, et même quand il force, même quand il monte des notes un petit peu aiguës, il y a toujours de la douceur et de l'élégance. Et bon, j'ai pas eu la chance de connaître George Michael, mais c'est comme si c'était quelqu'un de proche, auquel je me suis identifié très tôt. Il y a dans sa musique une intimité que je retrouve chez quelques autres chanteurs, mais lui, c'est particulier, quoi. Voilà, ça a bercé mon enfance. We could have shown them all.
Vous dites que vous vous identifiez à lui.
Ouais.
C'est-à-dire que vous aviez des posters.
J'avais réussi à avoir un poster d'un podium qui venait de France. Et moi, je chante depuis que je suis tout petit. Et j'ai une voix qui monte un petit peu haut et même vocalement, je m'identifie vachement à George Michael. You are far
When I could have been your star, you listen to people who scare you to death and from my... Je m'étais juré que je ne chanterais pas.
Vous avez des souvenirs de soirées au cours desquelles vous avez chanté du George Michael?
Mais ouais, récemment, je l'ai chanté avec ma fille qui est single fool. Ma fille qui a 8 ans, qui adore chanter. Et pareil, la mélodie l'a tout de suite captée, quoi. En fait, je trouve que c'est une chanson qui permet de se reconnecter à ses émotions. Et j'adore quand une chanson vient apporter une respiration, donner un petit peu les larmes aux yeux, dire que l'amour, c'est chouette. J'aime bien ça. You must have been kissing a fool.
Le choix du comédien Arié Elmaleh aujourd'hui dans C'est une chanson avec Frédéric Pommier, Kissing a Fool, George Michael dont le binôme dans le groupe Wham se nommait Andrew Ridgeley. C'est dit, à suivre La Terre au Carré, Mathieu Vidard.